ils en produisent peu. Or, il nous en faut beaucoup plus.
Et le problème va s'aggraver, car les centrales nucléaires qui en génèrent en tant que sous-produits doivent fermer dans les prochaines années.
À une pénurie dans la seconde moitié de ce siècle, car nous produisons environ 1,5 kg de tritium par an. La réserve mondiale actuelle de tritium n'est que de 20 à 30 kg, soit la quantité qu'une centrale électrique à fusion consommerait en un an seulement.
La course à la fusion nucléaire échouera-t-elle à cause du manque d'incombustible ? Pour remédier au problème, le Centre britannique de fusion nucléaire planche sur des concepts permettant de produire et stocker du tritium.
Pour que la fusion soit une source d'énergie de base durable, propre et sûre, nous devons produire du tritium à l'intérieur même du réacteur, car nous ne pouvons compter ni sur le tritium produit ailleurs, ni sur les réserves mondiales actuelles. Le concept de réacteur à fusion mise sur l'incubation du tritium à l'intérieur de la paroi du réacteur. Et ils le font grâce à une unité que les scientifiques appellent couverture fertile. La paroi du réacteur contient du lithium soit sous forme solide, soit sous forme liquide, qui, exposée à un flux de neutrons, entraîne la production de tritium.
Les neutrons produits par la réaction de fusion doivent donc frapper la paroi qui contient du lithium pour générer la production de tritium. Pour que ce plan fonctionne et que les futurs réacteurs produisent un excédent de tritium, une quantité suffisante de neutrons doit entrer en contact avec le lithium. Le compte y est-il ? Peut-on produire plus de tritium que ce qui est nécessaire pour la réaction de fusion ?
On est sûr que ça peut fonctionner, car on sait qu'il est possible de générer du tritium à partir du lithium. Reste à savoir si on arrivera à produire plus de tritium que ce qu'on consommera. C'est en tout cas ce que semblent montrer nos modèles. Mais aujourd'hui, on a peu de marge. C'est pourquoi on concentre la plupart de nos recherches sur la façon d'augmenter cet excédent de production de tritium.
Les chercheurs misent sur une augmentation maximale de 15% de tritium. L'isotope obtenu sera alors pompé hors du réacteur, puis stocké. Mais il est difficile à capturer.
Le tritium est un type d'hydrogène minuscule, et comme il est infiniment petit, il peut s'échapper à l'échelle atomique à travers d'autres matériaux poreux. Il est donc très important, tant pour des raisons sécuritaires que pour des raisons économiques, que le tritium soit bien confiné et qu'il n'y ait aucune fuite.
Le réacteur expérimental ITER doit prouver pour la première fois que les modèles développés sont transposables à grande échelle, mais aussi qu'un réacteur à fusion est capable de produire son propre tritium. Néanmoins, les chercheurs ne peuvent pas se permettre de multiplier les essais manqués. Des projections montrent que le fonctionnement expérimental d'ITER consommera déjà une grande partie des stocks de tritium. 500 grammes rien que pour le lancement, soit un tiers de la production annuelle actuelle.
Et c'est une des barrières qui se présente à nous, qu'on connaît depuis longtemps, sur lequel il commence à y avoir beaucoup de travaux, puisque quand on commence à proche de la réalisation d'un premier réacteur, ça devient quelque chose qui devient plus pressant. Oui, ça reste un des gros leviers à les déverrouiller.
Le problème du tritium concerne tous les concepts de fusion nucléaire, mais à différents niveaux.
Ça peut devenir un problème si on souhaite construire rapidement beaucoup de centrales. L'avantage avec la fusion inertielle, c'est qu'on a besoin que de très petites quantités de tritium au départ pour pouvoir faire exploser une bille, juste quelques milligrammes.
Mais pour l'équipe de Focused Energy, les explosions contrôlées de billes de deutérium et de tritium ne sont pas encore à l'ordre du jour. Dans l'Oxfordshire, au Royaume-Uni, les scientifiques du Rutherford Appleton Laboratory cherchent à mieux comprendre l'interaction entre faisceaux laser, plasma et déclenchement de la combustion. 5 semaines d'expérimentation sont prévues. Contrairement à leurs collègues de Darmstadt, ils peuvent mener ici des essais non pas avec 1, mais avec 5 faisceaux laser. Hôte inspecte la Target Area West, une chambre cible équipée de capteurs et de caméras spéciales. Ainsi, chacune des expériences est enregistrée et des informations précises sont fournies sur la pression et la température. Autant de paramètres importants pour espérer utiliser un jour la fusion inertielle à l'échelle d'une centrale électrique.
Pour amorcer la fusion inertielle, Nous devons injecter depuis l'extérieur de l'énergie dans le plasma à l'aide de faisceaux laser. Le plasma va alors tenter de s'opposer à l'absorption de cette énergie. Lors de nos expériences, nous essayons dans un premier temps de savoir comment cette énergie laser est absorbée par le plasma, mais aussi de voir si cela engendre des instabilités. Dans un second temps, nous essaierons de combiner ces deux parties, c'est-à-dire de réduire les instabilités et de faire en sorte que le plasma absorbe mieux l'énergie laser.
Toutes ces expériences servent avant tout à collecter des données. Toutes les demi-heures, les scientifiques envoient un faisceau laser pour observer le comportement du plasma dans la chambre cible et envisager, à terme, d'utiliser la fusion inertielle à l'échelle industrielle. Un coup d'œil au faisceau laser suffit pour se rendre compte à quel point la fusion inertielle est complexe. Sur une centaine de mètres, les faisceaux lumineux sont fragmentés, étirés en longueur et passés à travers des télescopes et des amplificateurs. Le faisceau laser génère une pression extrêmement élevée, nécessaire à l'implosion de la cible et à l'amorçage de la fusion. Mais pour l'heure, 99% de l'énergie injectée au système par les lasers est perdue. Pour les futures centrales électriques à fusion inertielle, il faudrait élaborer des centaines de faisceaux laser bien plus performants. Un objectif qui n'effraie toutefois pas Markus Roth. Pour le scientifique, les recherches menées par son équipe, mais aussi à travers le monde, sont sur la bonne voie.
Comme nous l'avons montré, la fusion inertielle fonctionne quand on obtient un gain d'énergie. Nous avons donc beaucoup avancé depuis 3 ou 4 ans. On se sent un peu comme les frères Wright lorsqu'ils ont décollé pour la première fois avec leur kit IO. L'avion n'avait parcouru que 37 mètres et le vol n'avait duré que 12 secondes. À l'époque, on était encore bien loin de l'A380. Mais on a su à ce moment-là que les humains étaient capables de voler avec un avion. C'est la même chose ici. Ce qu'il faut maintenant, c'est réussir à passer d'une expérience fondamentale à une application pratique. Notre dispositif a gagné en puissance et nous maîtrisons bien mieux les faisceaux laser qu'avant. Il faut dire que l'évolution de l'industrie technologique joue énormément en notre faveur. Elle nous permet de faire progresser nos recherches assez rapidement.
Un premier pas qui pourrait amener l'entreprise à participer à l'un des plus grands projets de recherche au monde, l'accélérateur de particules fer, actuellement en construction à Darmstadt. Markus Roth et son équipe comptent installer un dispositif expérimental au sein de l'un des entrepôts du site. Les plans sont déjà prêts.
Le laser là-bas, à l'endroit où se trouve la porte. On va y installer nos machines et on orientera les faisceaux laser à l'endroit où se trouvent ces barrières. C'est là qu'on aménagera la chambre cible, avec laquelle on fera nos premières expériences. On prévoit de commencer avec 4 systèmes laser qu'on répartira dans cette salle, là, au fond. Et on fera ensuite converger les faisceaux laser vers la chambre cible. Après notre installation ici à Darmstadt, on mettra en place un dispositif d'implosion qui ne sera pas opérationnel immédiatement, mais qui nous permettra à terme de comprendre une grande partie de la physique de l'implosion. Et plus tard, on aimerait construire une première centrale à fusion. Elle sera séparée en 2 zones, une pour démontrer le déclenchement de la fusion et l'autre pour la production d'énergie. Mais on ne pense pouvoir construire cette centrale à fusion qu'à la fin des années 2030.
Ça reste à démontrer, hein, parce que démontrer la fusion, c'est une chose, faire une usine qui fonctionne 24 heures sur 24, c'en est une autre. Encore une fois, ce qui est important, c'est le déploiement qui vient derrière. C'est combien de réacteurs vous êtes capable de construire en fonction du temps pour prendre une certaine part du marché.
De la fusion magnétique, aucune centrale n'a encore vu le jour. Mais le réacteur expérimental ITER, lancé en 2006 dans le sud de la France, concentre tous les espoirs. Sa construction, toujours en cours, occupe une surface équivalente à 250 terrains de football. Un puzzle constitué d'un million de pièces destinées à construire un tokamak de 30 mètres de diamètre sur une hauteur équivalente.
Ce qui fait la particularité de ce projet, c'est que nous essayons de combiner et d'intégrer dans une seule installation expérimentale le plus grand nombre de technologies nécessaires au développement futur de la fusion nucléaire.
Les du monde entier. La chambre à vide, dans laquelle le plasma est censé circuler, est la pièce maîtresse du réacteur ITER. Elle est maintenue en place par 18 bobines magnétiques. À proximité de la fosse, les composants de la chambre à vide sont assemblés pièce par pièce, bobine par bobine. ITER est censé illustrer à très grande échelle la fusion magnétique. L'ingénieur Jens Reich fait partie de l'équipe chargée d'assembler le réacteur.
J'ai déjà exécuté un grand nombre d'assemblages dans ma vie, mais en termes de dimension, ça dépasse tout ce que j'ai réalisé jusqu'à présent. Les plus gros composants pèsent entre 300 et 400 tonnes. Une chambre à vide comme celle qu'on aperçoit là-bas pèse environ 440 tonnes. Ce n'est évidemment pas facile à manipuler et la moindre vis à fixer est une opération complexe.
Des dimensions gigantesques, mais où la précision est de rigueur.
Nous devons respecter des tolérances et des écarts de l'ordre du millimètre. C'est indispensable. Sinon, les 9 parts de gâteau, pour ainsi dire, ne s'assembleraient pas.
9 secteurs, composés chacun de 2 bobines. Dans la fosse, les 9 composants sont assemblés les uns avec les autres pour former la chambre du réacteur.
À ma connaissance, aucune autre expérience ne pourra être menée à cette échelle. Ça constitue bien sûr un avantage. Mais comme vous le voyez, il s'agit d'une opération très complexe qui prendra des années.
Chaque composant est énorme et c'est ce qu'on appelle un first of a kind, c'est-à-dire que beaucoup de ces composants n'ont jamais été fabriqués. Et donc vous avez forcément un risque, quand vous faites des choses qui n'ont jamais été faites, que ça ne fonctionne pas comme vous l'aviez prévu.
Le premier secteur a été introduit dans la fosse en 2022. La manœuvre s'est déroulée sans encombre, jusqu'à ce que l'on découvre des fuites au niveau de la jonction avec le bouclier thermique. Celui-ci protège les bobines du plasma brûlant de la chambre à vide. Ces fuites pourraient donc laisser du liquide de refroidissement pénétrer dans la chambre à vide.
Si ce type de fuite se produisait, nous aurions des problèmes pour créer le vide. Or, celui-ci est une condition sine qua non pour pouvoir ensuite produire du plasma.
Avant toute réaction de fusion, la chambre du réacteur doit être vide et hermétique. Sans vide absolu, pas de plasma. Des fissures de quelques millimètres imposent le remplacement de composants de plusieurs mètres de haut.
Nous allons devoir démonter tout le dispositif.
Le Tokamak est le projet de fusion nucléaire le plus avancé. L'équipe va maintenant être confrontée à l'étape la plus difficile du processus, la construction d'un grand réacteur d'essai. Après des mois de préparation, le secteur présentant des fuites est extrait de la fosse du réacteur ITER. La manœuvre de levage est sans cesse interrompue pour éviter tout balancement du secteur. 1350 tonnes sont suspendues à ce pont roulant, soit à peu près le poids de 3 gros avions de ligne. Le secteur est transporté avec précaution. Sa mise en place sur des piliers requiert un positionnement sur mesure.
Le secteur a été extrait en moins de 2 heures, mais sa mise en place prendra environ 4 à 5 heures.
Plus qu'un demi-mètre à parcourir, mais l'équipe peut déjà se réjouir. La partie la plus délicate de l'intervention s'est déroulée sans encombre.
Il y avait beaucoup de tension, on l'a vraiment ressenti au sein de l'équipe. On est beaucoup plus détendu maintenant. Le fait que cette opération ait réussi est une bonne nouvelle.
Mais il reste encore une étape essentielle. Dès que le secteur sera entièrement posé sur les piliers, le bouclier thermique devra être retiré. Pour pouvoir faire les réparations, on emballe hermétiquement une partie du secteur et son bouclier thermique pour les protéger de la poussière, puis on les transporte dans l'entrepôt voisin. 2 autres secteurs doivent également être réparés. Des défauts de fabrication ont été identifiés sur 2 types de pièces essentielles. Les travaux devraient s'étaler sur plusieurs semaines. Le temps presse. ITER doit livrer ses premiers résultats en 2035.
Une des complexités d'ITER, c'est la taille des composants et les tolérances qui sont extrêmement faibles. Typiquement, une bobine dans ITER, c'est 8 mètres de haut, et vous allez aligner les bobines avec moins d'un millimètre de précision par rapport à ses voisines. Donc c'est quand même des choses qui sont extrêmement compliquées. Si vous réduisez la taille de la machine, vous pouvez faire des choses qui peuvent être faites en usine, des choses sont plus modulaires, et on sait que ça permet d'aller un peu plus vite.
Des réacteurs plus petits pourraient-ils permettre au Tokamak d'atteindre plus rapidement son objectif ? C'est justement la question que se pose l'entreprise Tokamak Energy, près d'Oxford. Dans la course à la fusion nucléaire, Stephen McNamara et son équipe misent sur un tokamak beaucoup plus compact. Ce prototype, appelé ST-40, ne mesure que 4 mètres de haut. Autre particularité, sa forme sphérique.
Il ressemble au tokamak conventionnel, mais la forme du plasma est plus compacte. Le plasma du ST-40 fait à peu près cette taille. On passe de 0 degré sur les bords à 100 millions de degrés au cœur du plasma. Le fait de supporter de telles différences de température montre que le tokamak sphérique est particulièrement performant.
Si vous prenez votre tore, en fait, si vous l'imaginez en coupe, bah vous avez les deux sections de votre tore qui sont à une certaine distance. Et donc cette distance, elle a été fixée par différentes raisons, par des raisons d'ingénierie, etc. L'idée des tokamaks sphériques, c'est de dire bah, on va rapprocher ces deux sections le plus possible. Donc on va avoir une différence entre le rayon majeur et le rayon mineur qui est de plus en plus petite. On va faire une machine qui est plus compacte, mais avec la même section. La section reste la même, vous rapprochez les choses. Alors évidemment, le volume diminue. Ça a l'avantage de mieux utiliser le champ magnétique.
Pendant longtemps, les grandes machines inspirées d'ITER ont été considérées comme l'alpha et l'oméga de la recherche sur la fusion. Mais les regards se tournent désormais vers des dispositifs plus petits, élaborés grâce à des aimants d'un nouveau genre.
Les avantages du tokamak sphérique sont connus depuis les années 1980. Mais la technologie magnétique utilisée jusqu'à présent ne permettait pas de les exploiter pleinement. Les nouveaux aimants supraconducteurs à haut champ vont désormais changer la donne.
Les supraconducteurs à haut champ, c'est-à-dire les bobines magnétiques, consomment moins d'énergie que les aimants actuels et confinent mieux le plasma. Ces nouveaux composants pourraient-ils faire la différence? C'est en tout cas ce que pense l'entreprise Tokamak Energy, qui développe déjà les premiers tokamak compacts équipés de ce système.
Ce procédé permet de créer un champ magnétique plus puissant dans un volume plus compact. Le plasma est alors mieux confiné et soumis à un champ magnétique plus élevé. C'est le grand avantage de cette technologie.
En d'autres termes, grâce à des aimants plus puissants, il est possible de construire un tokamak plus petit, mais tout aussi performant. Autre avantage, il évite les problèmes liés au gigantisme d'ITER. Pour Stephen McNamara, il s'agit là d'un atout fondamental pour construire un réacteur à fusion nucléaire. D'autres startups se consacrent également à l'élaboration de tokamak plus compacts.
On peut obtenir des densités, des températures et des temps de confinement plus élevés dans des dispositifs plus compacts, plus efficaces, moins chers et livrés plus rapidement.
Si vous avez une machine plus petite, ça vous permettra de faire plus de choses en usine, de préassembler, etc. Et donc c'est un petit peu le graal de la fusion, c'est de revenir vers des machines plus petites. Mais encore une fois, il faut vraiment comprendre que c'est un changement de paradigme parce que pendant longtemps, on était limité par ce qu'on était capable de faire d'un point de vue humain.
Les performances du tokamak sphérique sont déjà concluantes. Son plasma a pu être chauffé à 100 millions de degrés. C'est l'une des trois conditions pour générer une fusion.
Nous pensons que la fusion par confinement magnétique, en particulier avec le tokamak sphérique, est le procédé qui conduira le plus rapidement vers la fusion nucléaire, notamment parce que le confinement magnétique et les tokamaks se basent sur des recherches approfondies. Des centaines de tokamaks ont été construits à travers le monde et un vaste programme de recherche international est en cours.
Reste à savoir si le tokamak compact constituera un modèle de réussite pour la fusion nucléaire.
Ça pose d'autres problèmes, le volume est différent, et puis ça pose une question d'ingénierie, hein, puisque vous avez des flux de chaleur énormes, mais vous n'avez plus beaucoup d'espace au milieu. Et notamment pour écranter les neutrons, ça peut poser quelques questions.
Les tokamaks compacts n'ont pas encore réussi à générer de fusion, ni à obtenir un gain d'énergie. Impossible de savoir si la start-up atteindra l'objectif qu'elle s'est fixé, à savoir produire de l'électricité à l'aide de tokamaks dans les années 2030. Le concept de fusion magnétique, le Stellarator, pourrait-il quant à lui y parvenir? Son mode de construction évite d'emblée certains problèmes rencontrés par le tokamak. Le Stellarator est longtemps resté dans l'ombre du tokamak, car la fabrication de ses bobines spéciales requiert un haut niveau d'ingénierie. À Greifswald, le Stellarator Wendelstein 7X est prêt à franchir la prochaine étape.
Wendelstein 7X pourrait bientôt réussir à maintenir et à contrôler le plasma et garantir ainsi une stabilité sur une très longue période. Nous avançons pas à pas. Et nous avons franchi, comme prévu, une étape importante dans la dernière phase d'exploitation. Ça veut dire que nous avons produit un tel plasma pendant 500 secondes au total. 500 secondes, c'est déjà long. C'est presque ennuyeux tellement c'est long. Car ensuite, il ne se passe rien pendant un certain temps. De le doubler, de le tripler et ainsi de suite. Une centrale est censée fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une demi-heure représente un seuil. Et si on peut produire du plasma pendant une demi-heure, on pourra aussi le faire à terme pendant une heure. Et si on peut le faire pendant une heure, on pourra le faire pendant 24 heures. Ensuite, ça fonctionnera tout seul. On aura atteint un certain équilibre thermique. Un peu comme une chaudière à gaz dans une cave. On l'allume et elle met une demi-heure avant de fonctionner à plein régime. C'est notre objectif.
Créer un réacteur à fusion qui fonctionnerait en continu. En théorie, le Stellarator s'y prête mieux qu'un tokamak, qui doit d'abord générer un courant de plasma.
Nous avons longtemps défendu le concept de Wendelstein 7X, car nous tenions à prouver que ce système est fonctionnel du point de vue de la physique. Maintenant, nous nous penchons sur la question des centrales électriques. Encore à régler des questions comme le type de maintenance, l'échange des composants dans une géométrie tridimensionnelle ou la simplification des bobines.
Ici aussi, on cherche des réponses à ces questions. Jorrit Lion et son équipe simulent les futurs Stellarators. Grâce à des ordinateurs ultra-performants et à de nouveaux aimants supraconducteurs, les scientifiques souhaitent optimiser le principe du Wendelstein 7X et l'adapter aux centrales électriques. Pour cela, ils ont fondé à Munich la start-up Proxima Fusion. La plupart des membres de l'équipe a planché sur le Wendelstein 7X.